Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de Radio Judaïka qui nous écoutent à travers le monde et on vous souhaite ce matin un joyeux Hanouka. Enfin, la fête de Hanouka est arrivée avec ses 8 lumières et on est tellement heureux hier soir d'avoir allumé notre première bougie. Alors, hier soir, à la tombée de la nuit, ou plutôt au coucher du soleil, nous avons célébré l'allumage de la première bougie.
Ou bien après le travail.
Où on a toute la nuit pour l'allumer, en fait. On a célébré donc l'allumage de la première bougie de Hanouka. On a chanté, on a récité une bénédiction supplémentaire par rapport aux autres soirs parce que c'est le premier jour. Et on a célébré la victoire de cette petite lumière alors que les 7 autres bougies de la Hanoukia sont encore éteintes. Moi, franchement, je me demande sérieusement pourquoi est-ce qu'on fait autant de fêtes pour une petite lumière qui est allumée alors qu'on en a encore 7 à allumer. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux d'allumer les 8 hier soir, tout d'un coup ?
Surtout, que c'est quoi le miracle de Hanouka ? Revenons sur l'histoire de Hanouka, quelques minutes. L'histoire de Hanouka, c'est... Il y a eu une guerre. Une guerre qui était imposée par les Grecs. Alors c'est nous qui avons déclaré la guerre parce que les Grecs voulaient nous imposer des manières comment se comporter. Ils ont voulu nous séparer de Dieu. Ils ont voulu qu'on garde la Torah comme une histoire, comme une philosophie, comme toutes ces choses-là, mais ils ne voulaient pas qu'on étudie la Torah avec l'attachement que Dieu nous a demandé. On fait les mitzvot pas parce que Dieu nous les a demandés. On fait, il y a des choses qui sont intéressantes à faire, qui sont bien à faire, etc. Et les Hashmonaïm, les Maccabim, ils ont décidé qu'on ne peut plus continuer à vivre comme ça. Donc, ils se sont battus pour pouvoir continuer la Torah et les mitzvot et l'accomplir de manière, voilà, ils ont voulu qu'on arrête la mitzvah de la Mila, de Shabbat et beaucoup de choses comme ça qu'ils ont voulu nous interdire. Eux, ils ont pris sur eux de ne pas laisser une chose comme ça se passer. Et à la fin de l'histoire, c'est quoi ? C'est que quand il y a eu la guerre et ils avaient rendu impurs toutes les huiles, les Grecs, ils avaient touché l'huile qu'il y avait dans le temple, qui était la première onction avec de la première pression de l'olive avec quoi on allumait, qui était une huile d'olive assez rare, eh ben ils sont partis rendre impur. Et voilà qu'on a récupéré une toute petite fiole qui était encore pas touchée, qui était cachée et qui était avec le tampon du Kohen Gadol. Et là, donc, la suite de l'histoire, c'est qu'on a allumé la menorah. La menorah, elle a 7 branches. On a allumé toute la menorah, toutes les bougies. On n'a pas allumé une seule bougie. Donc, la question de Liora, elle est pourquoi, en vrai, on s'arrête sur une bougie et pourquoi
alors,
on n'allume pas ?
Alors, au temple, eux, ils ont allumé pendant 8 jours toutes les bougies. Bon, ils n'en avaient pas 8 parce que sur la menorah du temple, il y en avait 7. Mais il n'empêche que aujourd'hui, on célèbre le miracle de la fiole d'huile pendant 8 jours. On pourrait allumer le chandelier entier pendant 8 jours. Imaginez que dans une autre mitzvah, vous dites « Ah non, moi, par contre, je ne fais pas la mitzvah entière. »
Je fais par étapes.
Prenons la mitzvah du loulav qu'on célèbre à Soukhot. Alors, Soukhot dure 8 jours, ou 7 jours, pour être plus précis. Le premier jour, je prends le loulav. Le deuxième jour, je prends le loulav et le hétrog. Le troisième jour, je prends le loulav, le hétrog, les hadassim. Et le quatrième jour, j'ai mes 4 espèces réunies. Non, en fait, dès le premier jour de Soukhot, on prend les 4 espèces.
Donc, la feuille de palme, la feuille de myrte, le cèdre.
On en avait déjà parlé à Soukhot pour ceux qui nous ont écoutés. Alors, franchement, moi, ce que je me demande, pourquoi à Hanouka, contrairement aux autres fêtes, on commence petit à petit et on augmente chaque jour.
Surtout que la pauvre Hanoukia, elle est toute seule. La pauvre bougie, elle est toute seule.
Elle éclaire à peine, franchement. Est-ce que cette petite bougie, elle a du pouvoir ? C'est ce qu'on va voir tout de suite.
Est-ce que c'est ça qui nous... On fait toute la célébration autour de ça, de cette petite bougie ?
Eh bien, écoutez, cette petite bougie, elle a en elle une grande leçon de vie. Où que vous soyez, peu importe qui êtes-vous, que vous soyez un professeur de mathématiques, un étudiant en médecine, un parent de famille, un adolescent, un vendeur au magasin de chaussures. Un enfant, spécialement. Hanouka, c'est la fête des enfants. Vous pouvez apprendre énormément d'une seule petite bougie, car c'est elle qui peut changer votre vie et votre vision que vous avez sur le monde. Parce que tout ce dont on a besoin pour chasser l'obscurité, c'est une seule petite bougie. Pour faire du bien et amener la lumière dans la vie de quelqu'un, il nous suffit d'un seul sourire. Un seul petit mot gentil, et c'est ça qui peut bouleverser la vie de la personne en face de vous. Ajoutez une petite lumière dans votre vie. Ajoutez un petit sourire à la personne qui est en face de vous.
Souvent, c'est facile d'être gentil avec les gens qu'on ne connaît pas. Mais quand on vit avec la personne, on travaille avec la personne, donc ça devient normal. Ça devient notre quotidien. Mais des fois, ça peut toujours faire du bien. Que tu vas chez quelqu'un et tu lui demandes comment ça va, comment ça se passe. Tu rentres dans, un petit peu dans sa vie, si tu le vois qu'il n'est pas content, qu'il n'est pas heureux, tu essayes de savoir comment ça se passe chez lui. Et d'ailleurs, dans notre paracha, on a un message à transmettre très intéressant. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vayeshev. La paracha de Vayeshev, c'est quand...
Ça commence, c'est une bien triste histoire quand même.
C'est quand Yaakov est enfin installé dans la terre des patriarches, de son père Yitzhak, de son grand-père Abraham. Et là, il s'installe. Malheureusement, il avait perdu sa femme Rachel, mais enfin, il n'est plus en train d'être rusé par son beau-père Lavan, ou bien que son frère veuille le tuer, ou quoi que ce soit. Mais là, il dit « Enfin, je peux m'installer ». Mais malheureusement, il y a une histoire tragique qui se passe, c'est que son fils Yosef, il était un interpréteur de rêves, et donc il avait rêvé quelque chose, et il a dit à ses frères. Et ça a réveillé beaucoup de jalousie, en plus que Yaakov aimait, parce que Yosef était quand même le fils de Rachel qui était son bien-aimé, et qui lui avait fait une tunique spécifique, avec plusieurs couleurs, et donc il aimait particulièrement Yosef. Et en plus, Yosef, il commence à raconter un rêve, qu'il y a 11 étoiles qui se sont prosternées à lui, et comme ça, il raconte. Et donc, ça a réveillé vraiment une haine chez ses frères, et voilà que ses frères, ils voulaient le tuer, mais ils ont décidé de ne pas le tuer. Ils l'ont mis dans un trou où il y avait des scorpions et des serpents, etc. Par la suite, il a été vendu, il s'est retrouvé en Égypte. Et là, dans la paracha, on retrouve une histoire très étrange, où la Torah, elle consacre 23 versets pour raconter l'histoire de Yosef et des deux personnes à qui il a interprété le rêve dans la prison, qui étaient la personne qui servait les boissons au roi et la personne qui faisait le pain au roi, le Sara Mashkim et le Sara Ofim.
Alors, 23 psukim pour des rêves de ministres, franchement, c'est toujours une belle histoire qu'on raconte, mais qu'est-ce qu'on vient consacrer 23 versets de la Torah pour nous parler des rêves du maître Échanson et du maître...
Surtout qu'on sait que la Torah, elle essaye de minimiser les mots. Il y a le Talmud, il y a plein de livres qu'on discute sur la définition de la Torah. Donc, on essaye de réfléchir à chaque fois ce qu'on va rajouter. Un vav ou un yud.
Alors, juste pour illustrer un peu ce qu'on est en train de dire, pour les 10 commandements qui sont un peu le fondement de toute la Torah, on dit que dans les 10 commandements, toute la Torah est inclue dedans. La Torah consacre 14 versets.
Et toute la création du monde, elle a été aussi consacrée une trentaine de versets. On parle de toute la création du monde.
Alors là, franchement, 23 versets sur...
une histoire de rêve.
Une histoire de rêve en prison. Il faudrait... Franchement, la Torah, elle aurait très bien pu nous dire. Alors, les ministres, ils ont rêvé. Yosef leur a interprété les rêves. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître en tant qu'interpréteur de rêves. Et alors...
Il s'est retrouvé en face de Paro.
Voilà. Ça aurait très bien pu être ça. On n'avait pas besoin de tout ça. Et en fait, dans la vie, on a souvent le choix de se concentrer sur la lumière qui est allumée ou sur les sept autres lumières qui sont éteintes. Alors, on a toujours le côté positif de l'histoire ou le côté négatif de l'histoire et c'est un choix. Il y a toujours le choix de se concentrer sur la lumière, fût-elle petite qu'elle soit, ou l'obscurité, même si elle prend toute la place.
Et c'est ça, Yosef. C'est ça ce qu'il a fait.
Et Yosef, c'est cette petite flamme qui est toute seule le premier soir de Hanouka sur la Hanoukia et qui vient rappeler à chaque juif, où qu'il soit, à combien il est lié avec le Créateur, qu'il a un lien éternel au-delà de toute raison.
Et qui est une étincelle divine.
Qui est une étincelle divine.
Une créature de Dieu.
À l'intérieur, on a toujours une partie de Dieu qui scintille et qui continuera d'éclairer, de briller, peu importe les circonstances. Bonjour à tous, on est toujours sur Radio Judaïka avec Liora et Israël Gabay pour Shabbat chez les Gabay. Et on était en train de parler de la petite lumière qui brille sur notre Hanoukia, le premier soir de Hanouka, et quel message elle était en train de nous livrer.
Donc je vais rebondir sur ce que tu étais en train de dire, sur l'histoire de Yosef. En vrai, Yosef, pourquoi on a consacré 23 versets qui parlent de l'histoire du maître et chanson et du boulanger, du roi? Pourquoi? Parce que en vrai, dans cette histoire, Yosef, il avait plein de choses à faire en prison. Il n'était pas occupé, préoccupé. La Torah, elle vient nous raconter, il avait que ça à faire. Yosef, il avait que ça à faire d'aller demander à chacun comment ça allait. Tu n'as rien à faire dans ta vie, donc tu vas chez les gens, tu commences à demander comment ça va.
Eh ben
non,
oui.
Non. Yosef, il a vu que si cette image est arrivée devant lui et qu'il a vu que ces gens étaient tristes, et qu'ils n'étaient pas bien, c'est pour ça qu'il leur a demandé comment ça va, qu'est-ce qui se passe. Ils ont commencé à raconter de ce qu'ils ont rêvé. Et là, c'est comme ça qu'il est arrivé à interpréter les rêves et traduire les rêves. Et c'est ça qui a permis à Yosef de tourner de endroit qui est en train de tomber d'un trou à un autre trou pour quelque part arriver au palais et arriver chez le roi. Et devenir vice-roi d'Égypte. Comment ? Parce qu'il s'est intéressé à ce que la personne en face de lui, comment elle allait. Des fois, on passe juste à côté de quelqu'un et on ne comprend pas, on ne le calcule même pas. Mais si on voit quelque part qu'on peut l'aider, en lui donnant un sourire, est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Est-ce que des fois, on peut changer la vie de quelqu'un et on ne s'en rend pas compte. Des fois, on peut avoir le gentil mot à quelqu'un, quelqu'un qui travaille avec nous, qui est un élève, qui est notre fils. On peut avoir, au lieu d'avoir cette phase d'énervement ou cette phase de colère, on peut avoir tout simplement le bon côté, de regarder le bon côté de la chose et de les aider. Et c'est ça que Yosef, il a fait, et c'est ça qui lui a fait rebondir. Et c'est ça que le Tanya, le livre du Rabbi Shneur Zalman, qu'on a célébré la semaine dernière, sa libération et l'ouvrage de son livre qui a été commencé à être diffusé. Le Tanya, il dit qu'un juif, ça n'existe pas chez un juif quelque part, quelqu'un qui faute. Quand on voit quelqu'un qu'il a fait, ouais, non, mais cette personne, elle est mauvaise. Non, c'est pas vrai. Quand on fait une faute, c'est par erreur. Nous, on est là pour essayer de l'aider, de regarder, de aider chaque juif. Et ça, c'est notre travail. Chaque juif, chaque personne qu'on rencontre autour de nous, que ce soit des gens qui travaillent chez nous, que ce soit des gens qui travaillent chez nous à la maison, que ce soit notre professeur, dans toutes les situations, il faut toujours s'intéresser. Et ça, ça peut changer. Et ça, c'est le message du Shamash.
Et c'est ça que la Torah, elle veut nous enseigner avec ces 23 versets sur l'histoire des rêves des ministres en prison. La force d'une seule parole qui est pleine de considération. Une petite question simple, de demander comment ça va, de faire sentir à l'autre comme il est important. Et c'est ça qui permet à Yosef de sortir de la prison. Et c'est ça qui lui permet par la suite de faire sortir le peuple entier de la famine. Parce que la famine avait envahi le pays et Yosef, grâce au fait qu'il est devenu vice-roi d'Égypte, a pu sauver l'Égypte entière, qui était à l'époque la première puissance mondiale, de cette famine. Tout ça parce qu'il avait demandé à des prisonniers comme lui, est-ce que vous allez bien ce matin. Et avec un petit geste empathique, on arrive à tellement de bouleversements dans l'histoire. Si avec une seule question de gentillesse, on arrive à demander à l'autre et à éclairer sa flamme comme le Shamash, cette lumière spéciale qui sert à allumer les autres dans la Hanoukia, on arrive à allumer le cœur de notre prochain en face, comme cette petite lumière qu'on a allumée hier soir. Imaginez, 2 minutes, quel impact on pourrait avoir quand on fait une mitzvah, un commandement de la Torah. Si par une bonne action de demander à l'autre comment ça va, on fait tellement de bouleversements, à combien on peut bouleverser...
Ce qui est aussi une mitzvah de la Torah, de aimer son prochain, de aider son prochain.
Bien sûr. Mais alors quand on fait toutes les autres mitzvot qui nous permettent de nous lier à Dieu, à combien on peut reconnecter.
Une action, une bonne parole peut changer le monde.
Action qui est là pour appeler à un juif d'où il vient, d'allumer cette petite lumière de Hanouka, de lui faire rappeler d'où il vient, quelles sont ses origines, qui étaient ses ancêtres, combien de force il a en lui.
Comme...
C'est ça qui peut avoir beaucoup d'impact.
Comme le Maïmoni dit, que quand on met une balance... Il faut toujours se mettre dans la tête qu'avec une bonne action, tu peux...
Que la balance est égale des deux côtés. Et qu'on...
Une bonne action, tu peux mettre...
On peut faire rembourser du bon côté. Alors, imaginez qu'une pièce soit complètement obscure. Comment allez-vous chasser cette obscurité ?
Imaginez-vous que vous avez une panne d'obscurité chez vous, tout simplement.
Une panne d'électricité. Une
panne d'électricité, ouais. Ça arrive chez tout le monde.
Comment est-ce qu'on chasse cette obscurité ? C'est pas avec des bâtons. On ne peut pas faire la guerre contre l'obscurité. L'obscurité ne peut pas se battre. La seule manière de la chasser, c'est avec une lumière. Et une petite lumière, petite comme la première bougie, la première flamme de Hanouka.
C'est ça qui nous permet.
C'est ça qui lui fait peur. Et c'est ça qui repousse l'obscurité. Et nous, notre lumière, notre bien, c'est ces mitzvot-là que Dieu nous a ordonnés. Ce qui allume ce qu'il y a de plus profond en nous. Notre lien avec Dieu, notre spiritualité, cette connexion-là qu'on a avec notre histoire de la Torah, avec l'histoire du peuple juif, avec nos ancêtres. Et la lumière, c'est quelque chose qui se répand très vite. Une lumière allume le cœur d'un autre va s'allumer, et ainsi de suite, toutes les petites lumières dans tous les cœurs seront allumées. Et c'est avec une petite bougie de Hanouka qu'on pourra éclairer le monde entier.
Et donc, il ne faut pas regarder sur cette Hanoukia toute triste, mais au contraire. D'ailleurs, il y a eu tout un débat dans le Talmud avec Beit Shammai et Beit Hillel, qu'ils ont discuté. Il y en a qui pensaient qu'on devait commencer par 8 et terminer par 1. Mais non, on y va en rajoutant. On allume une petite lumière. Avec une lumière, on ramène de la lumière. Avec une bonne phrase, une bonne action, on ramène de la lumière. Et on continue à éclairer. Et voilà, on arrive le dernier jour de Hanouka. On dit « Waouh, quelle belle lumière !» qui vient nous éclairer.
Et c'est ça qui vient nous dire Beit Hillel, parce que Beit Shammai, lui, pensait que le premier soir, on devrait allumer 8 bougies, donc le deuxième soir, 7, et le dernier soir, on aurait fini Hanouka en allumant une bougie. La logique, c'est quoi? C'est que quand on a un défi à le relever, une grande mission à accomplir, au début, on doit chasser beaucoup d'obscurité, il nous faut mettre beaucoup de lumière, il faut mettre le paquet. Et alors, le deuxième jour, ça devient un peu plus facile, on a plus l'habitude, et ainsi de suite. On diminue la force chaque jour parce qu'on a plus l'habitude. Et au huitième jour, bon, ça devient beaucoup plus facile, on allume juste une petite lumière et c'est tranquille. Ça, c'est la logique de Beit Shammai. Mais Beit Hillel, il n'est pas d'accord. Alors, la logique de Beit Shammai, on allumera la Hanoukia comme ça, au temps du Mashiach. On célébrera encore Hanouka et on allumera de cette façon. Mais Beit Hillel, il n'est pas d'accord. Et c'est pour ça que tant que Mashiach n'est pas venu, on allumera comme Beit Hillel. Et Beit Hillel, c'est quoi? Il nous dit non, il n'y a pas besoin d'autant de bougies pour combattre l'obscurité. Une bougie, le premier soir, ça
donne
suffit.
La force.
Parce qu'on a cette force, comme tu dis. On a cette force en nous, cette neshama pure qui est une partie de Dieu et qui peut éclairer toute l'obscurité du monde. Juste une petite action suffit pour vaincre l'obscurité.
Juste en parenthèse, j'ai envie de dire que l'histoire de Hanouka, pour terminer, l'histoire de Hanouka, on l'a célébrée, pas la victoire de la guerre. C'est vrai qu'on fait le Hallel pour ça, on le mentionne dans la chanson qu'on est en train de chanter à Nerot Alalou. Mais tout le miracle, quand on parle à quelqu'un, c'est quoi la fête de Hanouka? Finalement, c'est d'allumer des bougies. D'allumer des bougies à base d'huile d'olive. C'est quoi l'huile d'olive? C'est un liquide qui ne se mélange pas.
Il reviendra toujours à la surface.
Il reviendra toujours à la surface. Et c'est quoi le message aussi? C'est quoi? C'est de ne pas se mélanger et de faire briller. On célèbre la victoire comment? En ajoutant de la lumière. On n'est pas en train de revenir sur l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, cette bataille et cette bataille? Oui, bien sûr, on peut apprendre l'histoire, on peut en raconter l'histoire. Mais c'est comment? Tu vas demander à un enfant, c'est quoi Hanouka? Ben, il va dire allumer les bougies. C'est allumer la lumière, ajouter de la lumière. Donc à nous de ajouter de la lumière, ajouter une bonne phrase.
Allumer les lumières qui se trouvent dans les cœurs de vos familles, de vos amis, de vos proches. Allumer toutes ces petites bougies qui sont éteintes et qui n'attendent plus que d'avoir une flamme, un chamash qui puisse les allumer à leur tour. On vous souhaite une très très belle fête de Hanouka. Que les lumières de Hanouka puissent éclairer vos vies. Et qu'on puisse très vite célébrer l'allumage de la grande menorah au temple à Jérusalem, tous ensemble, réunis en Israël. À très bientôt, à la semaine prochaine sur Judaïka 90.2 pour une prochaine émission.
Et bonne fête de Hanouka.